Et appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Pendant une heure, vous avez la parole. Dans la deuxième partie de l'émission, nous lancerons le débat sur la crise au Burundi. Tout a commencé il y a 2 ans quand le président Nkurunziza a annoncé sa candidature pour un 3e mandat très contesté. Dites-nous si vous ressentez les effets de cette crise que le gouvernement décrit comme imaginaire. Peut-on encore espérer une solution négociée? Il est encore temps de nous appeler ou de nous écrire sur Facebook et Twitter si vous voulez participer. Mais pour l'heure, ce sont vos questions à la rédaction. Bonjour David.
Bonjour Anne Contenet.
Vous vouliez nous parler de l'élection présidentielle en France?
Oui. À l'issue du premier tour de l'élection présidentielle française qui envoie Marine Le Pen et Emmanuel Macron au deuxième tour, la gauche et la droite ont donné des consignes de vote pour Macron. Pourquoi la politique de la candidate de l'extrême droite suscite autant d'aversion de la part de la gauche et de la droite qui ont appelé à former un front républicain? Et parmi les candidats disqualifiés au premier tour, est-ce qu'il y a quelques-uns ayant donné des consignes de vote en faveur de Marine Le Pen?
Alors pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Valérie Igounet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne, chercheuse à l'Institut du Temps Présent au CNRS et spécialiste de l'extrême droite. Alors, une grande majorité de mouvements politiques appellent donc leurs partisans à voter contre Marine Le Pen. Et David se demande pourquoi ce front républicain face à la candidate du Front National?
C'est une question super intéressante et la réponse est assez simple en fait. Marine Le Pen a repris la présidence d'un parti qui a été créé au début des années 70, entre autres par Jean-Marie Le Pen. Et ce parti est un parti d'extrême droite qui avance des thématiques notamment sur l'immigration, sur l'identité nationale, sur la sécurité, si vous voulez, qui ne sont pas du tout compatibles avec les logiciels des partis traditionnels en France. Quoi. C'est un parti xénophobe, nationaliste, etc., etc. Donc ce parti qui s'est imposé en France un peu plus depuis 2011, on considère qu'il fait peur à une majorité de Français et aujourd'hui la France ne souhaite pas en général que ce parti arrive au pouvoir.
Pourtant, on n'a pas vu la même mobilisation populaire qu'en 2002 quand Jean-Marie Le Pen, le père, s'était qualifié pour le second tour. Est-ce que ça veut dire que les Français considèrent que le Front National est un parti comme les autres?
Alors, en tout cas, ce qui est clair, c'est que, comme vous le soulignez, vous savez, en 2002, cette accession au second tour de Jean-Marie Le Pen, ça a été un choc en France. Ça a été, on va dire, une surprise. Peu ou très peu de personnes s'y attendaient. L'élection de Marine Le Pen, cette accession au second tour, c'est totalement différent. Nous étions préparés, nous pensions qu'elle pourrait être là au second tour. Après cette réception, cette absence de réaction pour l'instant, aujourd'hui, oui, alors en fait, cette politique de dédiabolisation qu'elle a mise en œuvre dans les années 2000 et qu'elle a accentuée à partir de 2011 a, semble-t-il, fonctionné. Ce parti se serait banalisé aux yeux de son électorat. Après, c'est vrai que, comme vous le savez, ce parti gagne en pourcentage de voix et c'est vrai qu'il a une place importante au sein de notre démocratie, bien sûr.
Alors, David avait une autre question. Il voulait savoir s'il y avait des candidats qui, au contraire, avaient appelé à voter en faveur de Marine Le Pen.
Alors, aujourd'hui, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a une mobilisation. La plupart des candidats ont demandé de voter explicitement pour Emmanuel Macron. Jean-Luc Mélenchon, lui, pour l'instant, n'a pas donné de consigne de vote, en sachant qu'il a engagé une consultation sur sa plateforme pour ses électeurs. Après, il y a quelques personnes isolées. Je pense, par exemple, à Madame Boutin, qui a dit...
Christine Boutin, qui n'était pas candidate.
Oui. Tout à fait. Non, je parle. En fait, c'est pour ça que j'ai souligné que ce sont des personnes isolées, évidemment, qui ne sont pas candidates, ou d'autres. Mais autrement, parmi les candidats, pour l'instant, il n'y a pas d'appel clair.
Merci beaucoup, Valérie Igounet, d'avoir été avec nous alors que vous avez un train à prendre. Très bonne journée. On va continuer à parler de l'élection présidentielle en France. On a reçu beaucoup de questions à ce sujet. Bonjour, Issa.
Bonjour, Anne. Bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous souhaitez nous parler d'Emmanuel Macron?
Ok, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron est arrivé en tête devant Marine Le Pen du Front National avec un pourcentage de 24% contre 21,3%. Quelle sera la stratégie d'Emmanuel Macron pour rassembler plus de voix sur Marine Le Pen? Comment la victoire d'Emmanuel Macron lors du premier tour a-t-elle été perçue à l'étranger?
Alors c'est François-Xavier Bourmeau qui va vous répondre, grand reporter au journal Le Figaro et auteur du livre « Macron, l'invité surprise ». Bonjour.
Bonjour.
Alors quelle stratégie pour Emmanuel Macron jusqu'au second tour?
Alors il y a plusieurs choses, parce que la qualification d'Emmanuel Macron pour le second tour de l'élection présidentielle, ça a provoqué une onde de choc dans les partis traditionnels français, chez les Républicains et au Parti Socialiste. Donc dans un premier temps, il va falloir attendre que la poussière retombe et qu'il voit un peu les conséquences de cette qualification sur les partis en place. Dans l'immédiat, il va essayer de consolider son électorat à gauche, c'est-à-dire convaincre les électeurs de Benoît Hamon, une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, de se porter sur lui. Au PS, ça ne pose pas de problème. Chez Jean-Luc Mélenchon, on voit que c'est plus compliqué. À droite, là aussi, c'est extrêmement compliqué parce que on voit que les Républicains sont divisés en trois catégories. Ceux qui veulent appeler à l'abstention, ceux qui veulent soutenir Emmanuel Macron et ceux qui veulent appeler à voter Marine Le Pen. Or, Emmanuel Macron, il a un deuxième objectif après l'élection à l'Élysée, qui est les élections législatives, obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Or, pour ça, il va devoir convaincre des figures des poids lourds de la droite de le rejoindre pour donner des gages à l'électorat de droite. Et ça va être tout l'objet de cette campagne de deuxième tour, donc une campagne de rassemblement pour essayer d'arriver avec un fort score face à Marine Le Pen dimanche dans deux semaines, pour avoir une légitimité qui soit forte et qui lui donne les moyens d'agir.
Et essayer donc d'obtenir ensuite une majorité à l'Assemblée nationale lors des législatives qui auront lieu au mois de juin. Issa se demandait également comment la qualification d'Emmanuel Macron pour le second tour avait été accueillie à l'étranger.
Il y a quelque chose qu'on a pu observer pendant le week-end dernier pour le second tour, c'est qu'il y avait énormément de journalistes étrangers qui couvraient la soirée d'Emmanuel Macron à la porte de Versailles à Paris. Les regards sont braqués sur l'élection française d'une part et sur Emmanuel Macron et sa personnalité d'autre part. C'est une nouveauté en France et à l'étranger, on commence à le regarder comme vraisemblablement celui qui peut faire barrage au Front National et puis surtout qui peut assurer la stabilité de l'Europe. Et c'est surtout ça qui intéresse les journalistes étrangers. On voit en Allemagne, en Angleterre, même en Espagne, en Italie, qui ont dépêché énormément de journalistes parce qu'il y a un vrai danger qui pèse sur l'Europe en cas d'élection de Marine Le Pen, puisqu'elle propose de sortir de l'Union Européenne. Donc les regards sont tournés vers Emmanuel Macron de façon extrêmement attentive pour cette raison-là. Et puis il y a une autre raison, c'est la personnalité du personnage qui intéresse les médias, le fait qu'il soit marié avec une femme de le côté un peu people, si vous voulez, avec quelqu'un de 20 ans de plus que lui, ça intrigue, ça intéresse. Donc il y a un gros intérêt pour cette élection française qui est à la fois politique et personnelle. C'est un nouveau personnage qui surgit.
Et son âge, effectivement, 39 ans, la presse étrangère est effectivement beaucoup beaucoup revenue sur cette surprise. Le New York Times en a parlé comme d'un novice en politique, mais qui incarne aussi le renouveau selon beaucoup de médias. La BBC a même souligné l'énergie, la jeunesse et l'incomparable charme et l'éloquence de celui qui a su capter l'air du temps. C'est ce que disait la chaîne britannique. Merci François-Xavier Bourmeau. Je rappelle que vous avez écrit le livre « Macron, l'invité surprise ». Merci d'avoir répondu aux questions d'Issa qui nous appelait de Sévaré, au Mali. Si vous aussi vous avez envie de revenir sur un sujet qui ne vous paraît pas très clair, n'hésitez pas à nous appeler. 33 9 693 693 70. C'est le numéro qui a composé Cheikh Amadou. Bonjour.
Bonjour madame.
On vous écoute.
Oui, bonjour à tous les auditeurs d'Appel sur l'actualité.
Vous aviez une question à propos de l'Iran.
Oui. En Iran, le Conseil a donné la liste des 6 candidats à l'élection présidentielle. Sur quels critères se base-t-il le Conseil pour choisir les candidats? Et pourquoi la candidature d'Ahmadinejad a été rejetée?
Alors cette élection, elle aura lieu le 19 mai. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Vous êtes reporter au service international de RFI. Alors comment le Conseil des gardiens de la Révolution choisit-il les candidats ?
Alors il y a un premier critère qui est d'ordre institutionnel, hein, puisque ce Conseil des gardiens de la Constitution est composé de 12 membres et il remplit le rôle d'un Conseil constitutionnel, comme on en trouve dans un certain nombre de pays, dont la France. Hein, on parlait plutôt de politique française. Ce Conseil des gardiens veille à la conformité des lois avec la constitution de la République islamique. Il valide aussi, comme on vient de le voir, les candidatures à l'élection présidentielle, mais aussi aux élections législatives. Et on l'a vu, il procède à une validation très sélective, hein, puisque sur 1630 candidat à la candidature, il n'en a retenu que 6 en vue du scrutin du 19 mai prochain. Il y a aussi un autre critère, peut-être un petit peu plus difficile à définir, qui est lié à la composition de ce conseil, à son positionnement politique, plutôt ancré dans la mouvance conservatrice, puisque ce conseil est composé de religieux qui sont assez âgés et qui ont tendance à préférer une lecture très restrictive de la constitution iranienne. Alors l'exemple le plus saillant, c'est que ce conseil n'a jamais validé la candidature d'une femme pour l'élection présidentielle en Iran. Or, la constitution de la République islamique ne mentionne pas qu'il faut être un homme pour être candidat. C'est donc une interprétation, en l'occurrence conservatrice, et on l'a encore vu cette année, puisque 137 candidatures de femmes ont été déposées et toutes ont été disqualifiées. Ce conseil, c'est donc un filtre très fort. Hein. Il bloque aussi les candidatures qui pourraient porter des éléments de contestation. La mouvance réformatrice iranienne, au fil des élections présidentielles ou législatives, a régulièrement critiqué l'élimination de ces candidats, mais pas seulement les réformateurs. On a vu, lors du dernier scrutin présidentiel en 2013, un pilier du régime, plutôt au centre hein, des équilibres politiques, Akbar Hashemi Rafsanjani, écarté de l'élection par le Conseil.
Alors, et ces 6 candidats, les 6 heureux candidats qui ont été retenus, quelle tendance ils représentent politiquement ?
Alors, on peut en citer rapidement 3. Hein. Hassan Rouhani, le président sortant, religieux, modéré, candidat à un second mandat. Il a été élu il y a 4 ans sur la promesse de la levée des sanctions et c'est lui qui, par le dialogue, la négociation avec l'Occident, a pu parvenir à l'accord nucléaire de 2015. Face à lui, un conservateur issu de la puissante mouvance des gardiens de la Révolution, c'est Mohamed Ralibaf, qui est le maire de Téhéran. Et puis surtout, un religieux conservateur, Ibrahim Raisi, qui dirige une puissante fondation religieuse en Iran. On le dit proche du guide suprême, et il faut rappeler que le guide suprême, c'est le principal dirigeant en Iran. Et c'est sa candidature à Ibrahim Raisi qui retient l'attention. Est-il là pour proposer une politique moins ouverte que celle de Hassan Rouhani depuis 4 ans ?
Cheikh Amadou, vous aviez une autre question justement à propos des candidats qui ont été écartés par le Conseil.
Oui, Mahmoud Ahmadinejad.
Oui, et vous vouliez savoir pourquoi, c'est ça ? Alors, Nicolas Falaise, comment ça se fait que la candidature de l'ancien président ait été rejetée ?
Alors, Mahmoud Ahmadinejad a été président de 2005 à 2013, hein, 2 mandats en Iran. Il a créé la surprise en déposant sa candidature à la candidature il y a quelques semaines, alors qu'à l'automne dernier, le guide suprême iranien, et redisons-le, le guide suprême est le principal dirigeant du pays, le guide suprême avait déconseillé à Mahmoud Ahmadinejad de se présenter. Donc du coup, dans ce contexte, on imaginait mal sa candidature validée par le Conseil des gardiens de la Constitution. On peut rappeler que les 2 mandats de Mahmoud Ahmadinejad ont été dominés par le bras de fer, la tension avec la communauté internationale, les sanctions dans le dossier du nucléaire iranien. On peut envisager que le guide suprême iranien et que le Conseil des gardiens ont signifié à la fois à Mahmoud Ahmadinejad, mais aussi aux électeurs iraniens et à la communauté internationale que le retour à ce climat de tension n'était pour l'instant pas à l'ordre du jour.
Merci beaucoup Nicolas Falaise et merci Cheikh Amadou de nous avoir appelé. Très bonne journée à tous les deux. Un mot avant de passer à la dernière question pour vous rappeler que Juan Gomez vous attend tout à l'heure à Abidjan. Les 2 prochaines émissions seront enregistrées en public à l'école Magic System d'Anoumabo. Première émission à 15h. Vous pourrez parler avec nos 3 invités du malaise social en Côte d'Ivoire Et à 16h, deuxième émission avec aux commandes Assal Faux du groupe Magic System. Il sera le rédacteur en chef d'Appel sur l'actualité. Il a déjà choisi deux thèmes sur lesquels il aimerait vous entendre. Le réchauffement climatique et la réconciliation nationale. Soyez nombreux, mais comme vous risquez d'être très nombreux et que le nombre de places est limité, pensez quand même à arriver bien en avance. Retour à Paris maintenant, dont nous appelle Mohamed. Bonjour.
Bonjour Anne.
On vous écoute.
Monaco rencontre ce soir le PSG en demi-finale de la Coupe de France. Un nouveau défi entre les deux équipes qui se sont affrontées en Ligue des Champions. Dans cette demi-finale, quelle sera la stratégie de Emery? Et en cas de défaite du PSG, quel sera le score de l'entraîneur du PSG?
Alors, Antoine Grenier du service des sports est là pour essayer de décrypter la tactique de l'entraîneur du PSG. Bonjour Antoine.
Bonjour Anne, bonjour Mohamed.
Quelle stratégie pour cette demi-finale de Coupe de France?
La stratégie, Unai Emery va s'adapter, hein, comme il le fait à chaque match, avec la pression du tenant du titre. Les Parisiens ont gagné la Coupe de France l'an dernier, puis la pression surtout de l'équipe qui a déjà battu Monaco en finale de Coupe, en Coupe de la Ligue plus exactement, avec cette fois un aspect un peu particulier, puisque Monaco va se présenter ce soir avec une équipe bis. Il y a énormément d'absents du côté de Monaco. Gemerson, Camille Glick, Joao Moutinho, enfin bref, que des titulaires en puissance. Monaco qui a une fin de saison à gérer, une fin de saison au sprint, hein, surtout en championnat et en Ligue des Champions, qui sont leurs deux gros objectifs de cette fin de saison. Donc ils vont un petit peu laisser tomber la Coupe de France. Du côté de Unai Emery, on est dans la position presque idéale, dans la position du chasseur. Paris qui est en forme, 8 victoires en 8 matchs, qui est revenu à hauteur de points de Monaco en tête de la Liga, avec un match en plus, certes. Mais ce soir, la tactique d'Unai Emery, ce sera de mettre Monaco sous pression, forcément.
Donc a priori, pas de changement côté parisien à attendre du côté de l'équipe qui sera alignée ce soir?
À part le fait de laisser reposer quelques cadres, il n'y a pas de raison de changer de tactique du côté d'Unai Emery. On verra certainement un 4-3-3 comme d'habitude, avec au milieu de terrain Thiago Motta en sentinelle. Ça marche très 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 bien ces dernières semaines. Et puis Matuidi pour mettre de l'impact et de la vitesse. Et puis Marco Verratti dans un poste un peu plus de créateur. Emery qui comptera aussi forcément sur André Di Maria, incontestablement l'homme de la fin de saison du côté parisien. Il en est à 5 buts en 5 matchs disputés, André Di Maria, et ce depuis la finale justement de la Coupe de la Ligue contre Monaco, où il avait été tout simplement étincelant. L'effectif parisien est quasiment au complet. Pastore, Kurzawa, Ben Arfa ne sont pas là, mais Unai Emery a des solutions de rechange. Et puis son 4-3-3, il donne des résultats intéressants ces dernières semaines. Il semble avoir trouvé la formule, l'entraîneur espagnol.
Mais si jamais le PSG perd, quel sera le sort d'Unai Emery?
Alors là, il va falloir s'y habituer. Unai Emery sur la sellette, c'est terminé. Il va finir la saison avec Paris, ça c'est une certitude, et il va rester au Paris Saint-Germain pour l'année prochaine, avec cette fois-ci forcément une obligation de résultat. Je vous le disais, Paris est en forme. En 2017, il n'y a qu'une seule défaite, c'est celle de Barcelone, c'est peut-être celle qui fait le plus mal au moral des Parisiens depuis ces derniers mois, mais mine de rien, c'est la seule défaite. Donc quand on a une seule défaite en pratiquement 4 mois pour l'instant, ça veut dire que le travail de l'entraîneur, il paye, et ce sera forcément payant. Donc Unai Emery sera là, même si Paris ne conserve pas son titre de champion de France. Alors là, peut-être que les dirigeants parisiens y réfléchiront, mais bon, il a gagné une Coupe de la Ligue, vraisemblablement il peut gagner une Coupe de France, il est encore en course en championnat, donc il a encore du temps à passer sur le banc parisien, même si la presse italienne parlait de son arrivée bientôt à la Roma, mais ça c'est très très improbable. Du côté des dirigeants parisiens, on va lui laisser du temps à Unai Emery.
Et d'ailleurs, lui planche déjà sur l'année prochaine.
Oui, d'autant qu'il y a des dossiers qui sont importants et des dossiers à traiter rapidement. Il y a le départ de Serge Aurier, qui pourrait prendre la direction de l'Angleterre vers Manchester City ou Liverpool, qui sont intéressés par le profil de l'Ivoirien. Il faudra gérer son départ et puis le remplacer aussi. Il y a également le cas Marquinhos, le défenseur central, qui veut être reconnu comme le titulaire qu'il est, comme le joueur performant qu'il est. Et puis, il y a les arrivées. Unai Emery, il a raté son premier mercato avec Paris, mis à part l'arrivée de Thomas Meunier, tout le reste, c'était pas forcément terrible. Là, il voudrait peut-être faire venir Jordi Alba à Paris. Enfin bref, il y a beaucoup de choses et Unai Emery va les gérer l'année prochaine avec Paris.
Merci beaucoup Antoine Grenier d'être venu répondre aux questions de Mohamed. Vous restez avec nous dans un peu plus de 10 minutes, juste après le journal, le débat.